Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast des maternelles pour parler d'un sujet aujourd'hui qui est très important, qui concerne énormément de parents, mais qui est à la fois tabou, voire honteux, la dépression du postpartum. La dépression du postpartum. Il y a quelques mois, une grande étude de l'INSERM a révélé ces chiffres impressionnants. Plus de 16% des femmes présentent des symptômes de dépression du postpartum 2 mois après l'accouchement, soit une mère sur 6. Alors ces symptômes, quels sont-ils? Comment on en guérit? Quelles traces éventuelles cela va laisser dans le lien avec son enfant? On va tout savoir sur la dépression du postpartum dans cet épisode. Avec de nombreux témoignages de femmes qui ont vécu ou vivent en ce moment cela, et grâce au conseil d'une psychiatre, et pas n'importe laquelle. Bonjour docteur Sarah Tebeka.
Bonjour Benjamin.
Vous êtes psychiatre, vous êtes chercheuse spécialisée en psychiatrie périnatale à l'hôpital Louis Mourier à Colombes. Ces chiffres, une femme sur 6, ça vous étonne ?
Non, c'est les chiffres qu'on attend complètement en population. Toutes les données nous montrent que selon les pays, il y a entre 10 et 20% des femmes qui font un épisode dépressif, donc une maladie dépressive, en période périnatale.
Est-ce qu'on peut tout de suite donner la différence entre la maladie dépressive en période périnatale, donc dépression du postpartum, et baby blues ?
Bien sûr, alors le baby blues, c'est pas pathologique. C'est des manifestations qui sont physiologiques, qui sont normales, naturelles, non pathologiques, qui arrivent chez les femmes. Classiquement, c'est plutôt autour du troisième jour après l'accouchement. Et c'est un état où il peut y avoir un peu de labilité émotionnelle, donc passage du rire aux larmes, un peu de tristesse, des inquiétudes sur est-ce que je vais y arriver. Classiquement, ça dure entre quelques heures et quelques jours. Si ça dure au-delà d'une dizaine de jours, 10-15 jours, là on bascule vers autre chose. La dépression, en revanche, c'est encore une fois une pathologie qui doit durer au moins 15 jours.
D'accord. Les symptômes de la dépression, le premier c'est ça ? C'est 15 jours de...
Ouais, dans les critères effectivement, un des premiers critères c'est que les symptômes sont présents tous les jours pendant 15 jours.
Sachant que la gravité de la dépression, je ne sais pas comment on dit exactement, peut varier d'une maman à une autre.
Ouais,
il y en a pour qui ce sera impossible de se lever, d'autres qui réussiront quand même à gérer ce qu'elles ont à gérer. Comment on mesure ça?
Alors effectivement, l'intensité de la maladie, la sévérité de la maladie, elle est très variable. Pour parler de maladie, il faut qu'il y ait plusieurs symptômes qui soient là tous les jours pendant 15 jours et qui invalident le quotidien des femmes. C'est-à-dire que les femmes sont handicapées dans leur quotidien, que ce soit pour s'occuper d'elles, comme tu le mentionnes, la difficulté à sortir du lit, la difficulté éventuellement à s'occuper des enfants, la difficulté à se rendre au travail si elles ont repris leur activité professionnelle, la difficulté dans les relations amicales, familiales ou dans le couple.
Vous, les patientes que vous voyez, forcément, si elles viennent vous voir, c'est que déjà c'est assez marqué. Qu'est-ce qu'elles vous racontent? Qu'est-ce qu'elles vous disent de cette maladie qui, effectivement, vous tombe dessus? Bon, j'imagine qu'on comprend pas trop ce qui nous arrive, surtout quand on n'a pas d'épisode dépressif passé.
Ouais, alors effectivement, souvent ce qu'elles rapportent, c'est qu'elles sont un peu perdues. C'est-à-dire qu'elles s'attendaient à vivre un moment de bonheur et finalement, elles ne rencontrent pas ce moment de bonheur. Il peut y avoir de la tristesse. Et souvent, ce qui est très culpabilisant, c'est qu'il n'y a pas de plaisir. Et l'absence de plaisir à s'occuper de son enfant, à prendre soin de soi ou à manger simplement, ça fait vraiment partie des symptômes très spécifiques de la dépression.
Ça continue d'être un mythe qui persiste, vous, dans ce que vous voyez, que la maternité, la parentalité rend heureux tout de suite. Moi, j'ai l'impression qu'on le dit beaucoup, que c'est dur au début, etc. Mais en fait, non. On idéalise
quand même. Il y a quand même une image très idéalisée de la mère pleinement heureuse avec l'enfant à son sein. Ça reste des images qui sont quand même très véhiculées et qui persistent largement.
Pourtant, les réseaux sociaux, il y a quand même des paroles qui aident, j'imagine. Je pense aux réseaux sociaux surtout parce qu'il y a des vrais gens qui prennent la parole pour raconter ce dont on parle.
Ouais, absolument. Là, je crois qu'il y a vraiment une libéralisation de la parole sur cette thématique-là. L'émission des maternelles participe à ça, mais il y a également les réseaux, il y a également des podcasts. Il y a vraiment tout un tas de choses dans les médias qui permettent de libérer la parole sur cette thématique qui est essentielle. Mais ça persiste quand même.
Et
il y a encore du boulot, clairement.
On va écouter un premier témoignage qui est celui de Mélissa. Mélissa, elle a 27 ans, c'est la maman d'un petit bébé qui a 5 mois. Elle m'a confié être en plein dedans, en pleine dépression du postpartum. Et elle espère bien sûr en sortir très vite. On l'écoute.
Bonjour, je m'appelle Mélissa, j'ai 27 ans et je suis la maman d'un petit garçon de 5 mois. Et ça fait maintenant 3-4 semaines que je me suis rendu compte et que je me suis avouée à moi-même que j'étais en dépression postpartum. J'en suis pas encore sortie, mais je vois le fond du tunnel, on va dire. Ça devient un peu plus clair pour moi. Je pense que la phase la plus difficile, c'était de l'accepter. Que je suis fatiguée, d'accepter que c'est difficile, que je comprends pas forcément tous les sentiments que je peux avoir là, dans la tête, dans le cœur. Qu'on peut pas être partout et qu'il faut juste se dire que c'est normal et c'est assez compliqué honnêtement. J'ai beaucoup pleuré. J'avais pas forcément les raisons de tout ça, je savais pas forcément pourquoi. Je savais pas pourquoi j'étais pas bien, je savais pas pourquoi j'étais triste et en fait, on en vient là et c'est pour ça que moi j'en parlais pas. J'en parlais pas parce que je savais pas quoi raconter aux gens, je savais pas comment leur expliquer ce que moi-même je ne comprenais pas, cet état-là incompréhensible, indescriptible, où on a envie de ne rien faire, où c'est horrible de dire ça, mais où s'occuper de son enfant c'est une charge au lieu d'être un plaisir. C'est difficile à se l'avouer, on n'a pas forcément envie d'être jugé aussi par rapport à ça. Donc voilà, c'était très difficile d'en parler. Et aujourd'hui, j'ai compris que l'important, c'était vraiment d'en parler. Moi, j'en ai même pas parlé à mon conjoint. J'en ai parlé à personne. C'est ma sage-femme qui a décelé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et on a commencé une discussion et j'ai pu vider mon sac. Je vais être suivie par une psychiatre. Et aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure chose à faire pour aller mieux. Donc, je souhaite bon courage à tous les parents qui traversent ça, autant les mamans que les papas. Parlez-en et soyez bien entourés.
Un grand merci à Mélissa d'avoir accepté de se raconter, c'est pas simple. Le plus dur, dit-elle, c'est déjà d'accepter d'être en dépression du postpartum. Vous la rejoignez là-dessus ?
Ben oui, en fait, il y a tout un enjeu sur la reconnaissance des symptômes. C'est-à-dire, comme on le sait, c'est pas évident de dire « là, je traverse quelque chose, c'est bizarre », et en fait, ce que je traverse de bizarre, c'est de la dépression. Et une fois qu'on a repéré que c'était de la dépression, de pouvoir accepter. Et accepter la dépression, ça veut dire de pouvoir en parler et de pouvoir accepter de se faire aider et d'avoir accès à des soins appropriés.
Justement, elle dit qu'elle n'en parlait pas du tout à ses proches, qu'elle en parlait à personne. Déjà, est-ce que c'est classique de ne pas en parler ?
C'est assez fréquent, effectivement, ouais. Parce que c'est associé à beaucoup de culpabilité et de mal-être, et donc ça rajoute finalement, d'une certaine façon, de la culpabilité à la culpabilité existante, de pouvoir verbaliser ça.
Quand on franchit la porte de chez le psychiatre, c'est que déjà il y a beaucoup de travail qui a été fait, non ?
Absolument, il y a déjà 50% du boulot qui est fait, parce que déjà on a identifié que ça n'allait pas, et ensuite on a identifié quelqu'un qui pourrait nous apporter de l'aide et de nous accompagner.
Ça fait peur d'aller voir le psychiatre ? Enfin, vous n'êtes pas forcément la mieux placée pour répondre, mais vous le ressentez ça dans les premières minutes des rendez-vous ?
Alors non, pas tellement, parce qu'en fait, les gens, une fois qu'ils arrivent en rendez-vous, ils ont déjà encore une fois fait le travail, ils ont plutôt accepté, mais ce qu'on constate et ce que les femmes nous disent, c'est « j'ai beaucoup hésité à venir vous voir, ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que ça va pas, on me disait de venir vous voir, mais j'étais réticente parce que ça me faisait peur, etc. » Ça, oui.
Et ça se passe bien, généralement.
Et en général, quand ils...
Vous mangez personne.
Exactement.
J'ai dit, ça concerne 16% des mères, et pourtant, on en parle toujours peu. Est-ce qu'il y a de la honte ? On parlait de culpabilité, il y a de la honte aussi ?
Oui, il peut y avoir de la honte parce que, encore une fois, on ne répond pas aux attentes de la société qui attendent qu'on soit au top du top. Et du coup, c'est difficile de se confronter à cette image écornée, finalement.
16% des femmes, on estime entre 6 et 10% des hommes, donc les hommes moins. Comment est-ce qu'on l'explique ? Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de pression mise sur les femmes, encore aujourd'hui, sur les mères ? Ça peut être une explication ?
Le fait qu'il y ait moins de dépression chez le père ? Alors oui, effectivement, il y a ça. Il y a aussi que chez les femmes, en plus de tous les bouleversements de la vie qui sont liés à la parentalité, il y a des bouleversements physiques et hormonaux qui participent très vraisemblablement à l'arrivée de la dépression.
Ça peut arriver, une dépression conjointe des deux parents ?
Mais bien sûr, et c'est un peu tout l'enjeu, et c'est pour ça que c'est très important de parler aussi de la dépression du père, c'est que une mère qui va pas bien a besoin de pouvoir se reposer sur son conjoint, mais pour le conjoint ça peut être très lourd et ça peut rajouter finalement une charge supplémentaire et donc un risque de se déprimer, et vice versa. Donc il y a vraiment des vases communicants entre les deux conjoints, et c'est très important de pouvoir avoir en tête l'ensemble de la famille pour pouvoir soutenir tout le monde.
Et puis le couple reste un couple, enfin on le sait, le baby clash on en parle tout le temps, etc. Mais quand en plus il y a la dépression, le couple est méga fragilisé, ou au contraire ça peut être un socle solide ?
Ça peut être un peu les deux, effectivement, et donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une attention à apporter sur comment ça se passe dans le couple. Est-ce que le conjoint peut venir en support ou pas ? Est-ce que ça occasionne plutôt justement des clashs, de l'irritabilité, de la tension ? Comment est-ce qu'on peut se positionner, comment l'un se positionne vis-à-vis de l'autre ?
Vous recevez des couples, des fois ?
Oui, ça arrive. Ouais. Alors en général, je prends en charge l'un des deux. Et par contre, systématiquement, je demande à rencontrer le conjoint, la conjointe, pour justement mesurer un petit peu les choses, et également pour pouvoir alerter le conjoint sur ce qui se passe, en disant, bah voilà, là vous avez constaté que votre femme n'allait pas bien, je vais mettre des mots dessus, je vais vous expliquer ce qui se passe, je vais vous expliquer aussi qu'est-ce qu'on attend de la prise en charge, comment est-ce que les choses vont s'améliorer, et entre autres, Il y a parfois des conjoints qui disent, ça va, ça fait un mois que tu vois le psy, ça va toujours pas mieux. Pour que le psy puisse dire, oui, ça fait un mois, mais en fait, on n'attend pas une amélioration dans la seconde, ça va prendre un peu plus de temps, et de pouvoir l'informer de ça en amont. Encore une fois, avoir l'information, ça permet d'améliorer beaucoup les choses.
Il faut
déjà
que ça vienne de vous. Alors, vous entrez un peu dans l'intimité des couples dans ces moments, ce qui doit être des choses particulières. Vous pouvez aussi détecter des situations de violence psychologique, physique ou autre. J'imagine que ça, c'est
hyper central aussi. Ça participe vraiment de l'évaluation.
Central et fréquent ?
Fréquent, oui, ça reste fréquent, surtout dans une population, par définition, quand ils arrivent chez le psy, c'est qu'il y a déjà pas mal de vulnérabilité, donc c'est davantage, effectivement, c'est plus fréquent dans ces populations-là qu'en population générale.
Est-ce que ça touche particulièrement les parents pour le premier enfant ? La dépression.
Alors oui, c'est en tout cas le fait d'avoir un premier enfant est un facteur de risque. Après, il faut vraiment garder en tête que même s'il existe tout un tas de facteurs de vulnérabilité, on peut faire une dépression à n'importe quel moment.
Chouette alors, ça peut tous nous arriver. Ouais. Il y a pas un profil type des mères qui font... Si vous disiez tout à l'heure quand même la précarité...
Voilà, la précarité, exemple. Le manque de soutien, le manque d'isolement, c'est-à-dire une maman qui est seule ou un père qui est seul parce qu'il n'y a pas de conjoint, parce qu'il n'y a pas de famille, parce qu'il n'y a pas du tout d'étayage amical, etc. Ça, c'est un facteur de risque. Encore une fois, le fait d'avoir des antécédents personnels ou familiaux d'ailleurs de dépression ou d'anxiété très importante, c'est un facteur de risque. Et globalement, les événements stressants au cours de la grossesse sont des facteurs associés aussi à la survenue de la dépression.
De ce que l'on en sait, ça peut être héréditaire. Il y a une part de génétique dans la dépression et donc dans la dépression aussi du postpartum ?
Oui, tout à fait. Il y a une part de génétique. La dépression du postpartum, comme les dépressions, il y a une part de génétique liée à la génétique de la dépression, à l'héritabilité de la dépression. Et de façon plus spécifique, il y a une héritabilité de la dépression du postpartum. Dans les évaluations que font les obstétriciens, les sages-femmes, c'est important de questionner aussi si la mère de la femme qu'on suit, la tante, la cousine, la sœur, a déjà fait une dépression parce que ça les rendrait vraiment particulièrement vulnérables.
On peut rappeler la différence entre l'anxiété, qui j'imagine concerne tous les jeunes parents, dans une certaine mesure, et la dépression. Ce sont deux choses différentes.
C'est des choses différentes. L'anxiété, c'est ce que vous percevez tous, effectivement. C'est un peu le stress. Donc, ça peut avoir des manifestations physiques, avoir mal au ventre, avoir des nausées, avoir la gorge nouée. Ça peut être aussi des pensées anxieuses. Donc, par exemple, ruminer sur le fait qu'on ne va pas réussir à s'occuper de son enfant, qu'on ne va pas être une bonne mère, on ne va pas être un bon père, qu'on ne va pas savoir, qu'on ne sait pas comment on va gérer l'organisation. Enfin, voilà, c'est rumination anxieuse. Donc, c'est ces types de symptômes-là. Alors que la dépression, on est plus sur de l'affect, donc de la tristesse, du manque de plaisir, etc. Néanmoins, les deux peuvent être tout à fait conjoints, et c'est en fait assez fréquent quand on est déprimé qu'il y ait aussi de l'anxiété.
Comment on traite en particulier les jeunes mamans ? Est-ce qu'à l'été, on peut prendre n'importe quel médicament que vous allez prescrire à d'autres personnes en situation de dépressive ?
Alors, sur la prise en charge globalement des dépressions, il y a un volet psychothérapie qui est essentiel. Et on l'a dit d'ailleurs, au-delà de la psychothérapie, il y a déjà le dépistage, la reconnaissance, nommer la maladie. Déjà, c'est une partie énorme de la prise en charge. Ensuite, il y a toute la psychothérapie qui est un volet essentiel. Et ensuite, dans certains cas, quand il y a des dépressions sévères en particulier, effectivement, on va être amené à mettre des traitements antidépresseurs. Et il y a des traitements antidépresseurs qui sont compatibles avec la grossesse et il y a des traitements antidépresseurs qui sont compatibles avec l'allaitement. C'est pas le cas de tous, mais ça existe.
Alors, maintenant, il y a une autre question, c'est est-ce qu'un accouchement compliqué, traumatisant, un bébé préma, un accouchement seul, une césarienne d'urgence, etc., bref, un accouchement qui se passe pas comme on l'avait idéalisé, ça peut être un facteur de vulnérabilité ?
Oui, bien sûr. Globalement, tous les facteurs de stress sont des facteurs de risque de survenue de la dépression, et encore plus quand il y a la charge émotionnelle associée hyper intense, comme une césarienne en urgence, un bébé qui n'est pas en bonne santé à la naissance, etc.
C'est important, je pense, de le dire, parce que je pense qu'il y a plein de femmes qui nous écoutent et qui se disent « Ah, ça vient peut-être de là », et donc ça déculpabilise sans doute que de se dire qu'on n'est pas la seule.
Absolument.
À vivre ça. Justement, on va écouter le témoignage de Jessica. Jessica, c'est la maman d'une petite fille qui a 3 mois. Elle aussi est en plein dedans. Dans cette dépression du postpartum. Et elle, en plus, elle a vécu une grossesse très compliquée avec la fameuse hyperémèse gravidique que l'on peut résumer par des nausées violentes du début à la fin de la grossesse. Donc on écoute Jessica.
Bonjour, je m'appelle Jessica, j'ai 29 ans, je subis actuellement une dépression du postpartum. Ma petite a 3 mois, je suis suivie actuellement en hôpital pour justement être accompagnée dans cette dépression. J'ai subi l'hyperémèse gravidique tout le long de ma grossesse, j'étais sous traitement et fort heureusement, ça a bien fonctionné. Et j'ai eu une grossesse vraiment avec des contractions, mais voilà, j'ai totalement accepté le fait que mon corps change, le fait de devenir mère. Je me suis beaucoup renseignée sur la grossesse, le début de parents, etc. Et j'ai un conjoint qui ne s'est pas du tout renseigné. Le fait est que donc ma petite a 3 mois et quand elle est née, on a fait le choix avec mon conjoint de ne pas divulguer ni de photos ni de prénoms pour cette petite, puisqu'on voulait que les rencontres se fassent en vrai et non à travers un téléphone. Aux grandes dames de notre entourage, beaucoup ont été en colère, beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'attaque également, de ne pas avoir compris pourquoi on demandait par exemple des tests PCR alors qu'on était en plein mois de décembre et que la maladie faisait un grand boom. Et donc ce manque de soutien de la part de l'entourage, de la part de mon conjoint, la fatigue, le chamboulement qu'est la naissance, tout ça a fait que aujourd'hui il y a des jours qui sont très compliqués, et une solitude aussi et une incompréhension de l'entourage qui reste quand même assez fragile. Mais voilà, aujourd'hui, je sais que je suis en dépression, mais je suis accompagnée pour. Et j'ai clairement identifié les facteurs qui m'ont conduite ici aujourd'hui.
Merci beaucoup à Jessica d'avoir accepté de se raconter. On est toujours avec vous, docteur Sarah Tebeka. Vous êtes psychiatre, je le rappelle. Jessica parle du manque de soutien de l'entourage et du conjoint au moment de la naissance. Là, ça joue. J'imagine qu'on a besoin de se sentir soutenu, en particulier par le conjoint. On peut mettre la pression un peu au conjoint, là, il faut le dire aussi, parce que je suis sûr qu'il y a des futurs pères qui écoutent, là.
Bien sûr, c'est sûr que c'est hyper important que chacun puisse avoir sa place et que chacun sente qu'il peut compter sur l'autre. Et je dirais que c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que autant les pères ont un rôle fondamental à jouer auprès des mères, autant les mères ont aussi un rôle à jouer auprès des pères, de pouvoir laisser sa place, de pouvoir guider, de pouvoir accompagner aussi cette nouvelle paternité.
On parlait tout à l'heure des facteurs de vulnérabilité, c'est très intéressant. La pression sociale peut en être une ?
Bah c'est clair, hein, c'est ce qu'on disait en introduction. C'est sûr qu'on attend des femmes et des jeunes parents qui soient hyper heureux d'accueillir un enfant et que ça ne change rien à leur joie de vivre, leur gaieté et leur quotidien. Et c'est faux. Évidemment qu'avoir un enfant, bah, ça modifie, c'est un bouleversement, ça modifie grandement le quotidien des gens et ça peut être associé à pas mal de souffrances. Et donc de pouvoir dire en fait que non, tout n'est pas, on peut pas maintenir le mode de vie qu'on avait avant, à la fois au niveau professionnel, à la fois au niveau des sorties, à la fois au niveau familial, alors qu'on vient d'avoir un bébé, il faut pouvoir accepter ça.
Et la forme aussi, la forme physique, je veux dire, la fatigue, j'imagine, est un facteur de vulnérabilité.
C'est évident, en particulier les troubles du sommeil. Quand on est enceinte ou qu'on vient d'avoir un bébé, évidemment, on a un sommeil qui est hyper haché, qui est très découpé. C'est le cas pour la mère comme pour le père, évidemment. Ils sont soumis aussi au réveil nocturne, même si le bébé est allaité. On est quand même dérangé, évidemment, dans notre sommeil. Et donc ça, le manque de sommeil récurrent, c'est un facteur très important de fatigue et donc de dépression. Et
aujourd'hui, il y a un entretien prénatal en théorie est obligatoire ?
Tout à fait.
Uniquement en théorie ?
Non, c'est complètement obligatoire, c'est dans la loi et c'est censé être appliqué depuis l'été 2020. Dans les faits, effectivement, c'est encore insuffisamment pratiqué.
Ah oui, c'était ça mon truc en théorie, d'accord, c'est pas encore suffisamment pratiqué.
C'est insuffisamment pratiqué, je crois que dans les derniers chiffres, c'est un tiers des femmes seulement qui en bénéficient, donc on est encore loin du compte, même si les choses ont tendance quand même à s'améliorer.
Il est fait à qui cet entretien ?
Il est censé être fait à tous les parents. Alors, aux mères, il est adressé aux mères, mais les conjoints sont largement invités à venir. Et l'objectif de cet entretien, c'est justement d'obtenir des informations sur les facteurs de vulnérabilité des femmes pour organiser l'ensemble de la grossesse et l'arrivée de l'enfant au mieux.
Et c'est un rendez-vous avec un psychiatre.
Non, c'est une sage-femme. Classiquement, c'est plutôt les sages-femmes. Les obstétriciens peuvent le faire aussi, mais c'est plus souvent les sages-femmes.
Question, tiens, je m'éloigne 2 secondes. C'est compliqué aujourd'hui d'avoir rendez-vous avec un psychiatre ?
Alors, ça dépend où, mais globalement, il peut y avoir des délais assez longs.
Surtout en périnatalité.
Alors, des psychiatres spécialisés en psychiatrie périnatale, il faut se rapprocher des réseaux de périnatalité qui existent dans tous les départements et qui vous orienteront sans difficulté.
Les PMI, typiquement
Par exemple, les PMI, c'est un très bon recours. Il n'y a pas toujours de psychiatre, mais au moins, ils pourront vous orienter.
Parlons du lien, maintenant, entre la mère et l'enfant, même si la question est exactement la même pour le père. Qu'est-ce qu'on en sait après une dépression du postpartum costaud ?
Alors effectivement, c'est une question assez centrale parce que la dépression du postpartum a la particularité qu'elle évidemment impacte la mère ou le père, mais aussi évidemment le bébé. parce que les interactions sont altérées. Hein. Quand une mère est hyper triste au fond de son lit, bah, c'est difficile d'aller sourire à son bébé, ouais, et de s'en occuper. Et donc ça, ça impacte directement le développement de l'enfant, effectivement. Et il faut avoir en tête que c'est réversible, que ça se prend en charge, et qu'il y a du coup un enjeu vraiment très important à accompagner les femmes et à accompagner ce lien, à le soutenir de façon à ce qu'il n'y ait pas d'impact sur le bébé.
Oui, c'est important de dire que rien n'est irréversible, qu'on peut toujours rattraper le... C'est même pas des ratés au début, c'est... ça fera partie aussi de l'histoire de
absolument,
son enfant,
absolument,
à qui on pourra en parler plus tard. Quand il y a une dépression qui est vraiment longue, avec hospitalisation de plusieurs mois, voire plusieurs années, non, c'est fréquent ça quoi.
Non, plusieurs années, c'est rarissime.
Ouais, j'en rajoute toujours un peu. Non, bon, ça peut valoir le coup sans doute d'en parler plus tard à son enfant.
Ah oui, de toutes les façons, je crois que c'est des choses qui peuvent être abordées, et ça fait aussi partie de la déstigmatisation et d'arrêter d'imaginer que toutes les maternités se passent au top, de pouvoir savoir que sa propre mère, alors qu'aujourd'hui la relation est parfaite, a eu des moments un peu difficiles à l'arrivée de l'enfant. Je crois que c'est plutôt des choses, au contraire, très importantes à évoquer.
La reprise du travail peut être libératrice. C'est quelque chose d'ultra culpabilisant, mais de vrai, donc allons-y. Il ne faut pas juger difficilement. Je me souviens toujours de l'exemple de Rachida Dati, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a un petit moment. Elle accouche 3 jours après, elle est en conseil des ministres. Tout le monde lui tombe dessus en disant quel modèle elle envoie aux femmes, etc. Alors qu'au fond, si elle avait envie de reprendre le boulot, elle avait le droit. Vous étiez positionné, ça vous avait choqué qu'elle reprenne si tôt? Le débat vous avait choqué à l'époque?
En fait, je pense qu'il y a vraiment un entre-deux à trouver entre les injonctions de la société qui veulent que on reprenne très vite et qu'on retrouve notre fonctionnement antérieur et le désir de la femme. Et l'important, c'est de vraiment être réglé sur le désir qu'on peut avoir. Et effectivement, il y a des femmes qui vont être beaucoup mieux en étant tranquilles chez elles, à s'occuper de son bébé. Quand je dis tranquille, c'est pas au calme, hein. Mais c'est en tout cas dans ce confort du domicile et dans la relation avec son bébé.
Dans le cocooning, on va dire.
Dans le cocooning de la relation avec son bébé. Il y a d'autres femmes qui ont du mal avec ça et qui se sentent un peu étouffées par ce quotidien-là et qui ont besoin d'aller travailler. Et donc l'important, c'est vraiment d'être en phase avec soi-même et de faire ce qui nous semble être bien. Donc j'ai pas de préconisation absolue. Ce que je préconise quand même, c'est d'avoir du temps avec son bébé, parce que ça, je crois que c'est vraiment très important pour la mère et surtout pour l'enfant. Donc la reprise du travail 20 heures par jour à J3, bah, ça pose question plutôt pour la santé de l'enfant que pour celle de la mère. Mais après, il faut vraiment s'écouter et rester cohérente avec soi-même.
Après, il y a aussi le côté où plus on va s'occuper d'un bébé, j'ai l'impression, moins c'est stressant, moins c'est angoissant, plus on va le connaître. Et ça concerne tous les parents aussi. Donc il faut aussi accepter peut-être les premières semaines sont compliquées aussi, mais on va apprendre à vivre avec, le gérer. Et...
Oui, c'est sûr qu'il y a besoin de temps en périnatalité pour apprendre à se connaître, pour apprendre à se gérer, à grandir ensemble, à construire ce lien, à se faire confiance aussi. Et je crois que c'est vraiment un enjeu d'ailleurs central dans la période périnatale, que de se faire confiance, que de faire confiance à son enfant aussi, et que l'enfant puisse faire confiance à ses parents.
On va écouter un nouveau témoignage toujours sur ce sujet. Cette fois, c'est Camille qu'on écoute.
Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 30 ans, je suis une maman d'une petite fille de 16 mois. On m'a diagnostiqué une dépression postpartum en mai 2022, donc ça fait bientôt un an. J'avais vraiment le moral en baisse et j'étais en congé parental en fait. J'ai pris 6 mois de congé parental après mon congé maternité pour pouvoir être près de ma fille et je me sentais pas du tout de la laisser. Et pour autant, être seule à la maison avec ma fille, c'était très compliqué pour moi. J'avais l'impression d'avoir du mal à la gérer, d'être une mauvaise maman, de pas réussir à lui faire faire sa sieste. Dès qu'il y avait un truc qui fonctionnait pas comme je voulais, en fait, je me disais que j'étais nulle et que je méritais pas d'être là, que ma fille méritait pas une maman comme moi et que mon conjoint méritait pas une femme comme moi. Et j'ai eu des idées très très noires. Jusqu'à ce que mon conjoint me traîne chez le médecin. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a fait le diagnostic et qu'on m'a prescrit des antidépresseurs. Donc ça fait bientôt un an que je prends ces antidépresseurs-là. Ça va mieux. J'ai encore des moments un petit peu difficiles où j'ai vraiment le moral qui chute. Et voilà, je suis en arrêt de travail aujourd'hui depuis plus d'un mois pour essayer de me reposer et de repartir du bon pied. Si je peux donner un conseil aux mamans qui traversent ça, c'est que vous n'êtes pas toute seule, que la dépression, c'est quelque chose, enfin la dépression postpartum, c'est quelque chose de très fréquent et qu'il faut surtout en parler parce que je vois tout à fait ce que c'est d'avoir envie de mourir, d'avoir envie de prendre toutes ses affaires, de partir loin, loin, loin et de jamais revenir. Et personne ne mérite de traverser des moments comme ça et que qu'en se faisant aider, ça peut aller mieux. Voilà, je souhaite beaucoup, beaucoup de courage à tout le monde.
Merci beaucoup à Camille. Ça peut être un faux ami, le congé parental. C'est-à-dire que ça peut être formidable si on est à l'aise dans ses baskets, c'est ce qu'on veut, etc. On peut aussi se retrouver seul du matin au soir avec son bébé. Et là, toucher un peu le fond à ce moment-là.
Oui, effectivement. Et là, c'est très important de pouvoir aller solliciter de l'aide, organiser ses journées pour pas être seul à la maison. Donc là, les PMI, les maisons maternelles, les maisons des 1000 jours ont un rôle fondamental. C'est des lieux où les femmes peuvent aller au quotidien rencontrer d'autres mères qui sont dans la même situation, et c'est pas nécessairement médicalisé, hein, c'est vraiment de créer du lien finalement social avec son bébé.
Tiens, bah parlons justement de ce qui n'est pas forcément médicalisé. C'est tout bête ce que je vais dire, mais sortir, voir des copains, voir des copines, aller au cinéma, les faire garder son enfant, faire du sport aussi. Ouais. Ça, c'est des choses que vous recommandez ou...
Bah, bien sûr. Alors, c'est pas toujours à la portée de tout le monde. Ouais. Et quand on est hyper déprimé, c'est un peu exigeant de demander ça aux femmes. Mais en tout cas, c'est sûr que dans un quotidien, de pouvoir avoir une activité un peu autre, de pouvoir sortir la tête de l'eau que des quatre murs du domicile, c'est, ouais, c'est des recommandations.
Oui, c'est ça. On dit que le sport est anxiolytique. Je crois que c'est prouvé, etc.
Oui, tout
mais
tout à fait.
Effectivement, tout le monde n'est pas sportif, mais ne serait-ce que d'aller marcher, d'aller faire un tour en forêt, en ville, etc. Ouais. Ça, c'est...
Ah, bah, bien sûr. Ah, bien sûr.
Je suis content, j'ai donné un bon conseil. Parlons de l'avant-naissance. Parfois, la grossesse fait remonter à la surface des traumatismes de l'enfance qui peuvent expliquer, pas forcément la dépression, mais en tout cas les difficultés du début. Ça aussi, c'est un classique.
Ah, ça, c'est hyper classique, effectivement. Hein. La grossesse, c'est vraiment une période où il y a plein de choses qui remontent à la surface de son histoire de vie, qui peuvent être des moments agréables comme des moments particulièrement douloureux, et en particulier des traumatismes de l'enfance, des traumatismes sexuels en particulier.
L'inceste, pour le dire clairement,
ça, ouais, tout
il peut y avoir des réveils au moment de la,
ah, ouais, ouais,
de la grossesse.
Ça, c'est vraiment très, très classique, très fréquent, et c'est important de pouvoir effectivement l'évoquer et d'être particulièrement accompagné, parce que, à l'évidence, ça rend les femmes encore plus vulnérables.
Avec la peur de reproduire ce que l'on a vécu ?
Alors, pas nécessairement, c'est pas tellement de ce registre-là, mais c'est de revivre les choses qu'on a vécues dans l'enfance soi-même, de se reconfronter à ça, c'est particulièrement douloureux, évidemment.
Une grossesse angoissée ne présage pas forcément d'une dépression du postpartum ?
Pas forcément, mais c'est quand même un facteur de risque, ouais, clairement. Hein, quand on est hyper anxieux pendant la grossesse, parce qu'on a tout plein de raisons de l'être, on est quand même beaucoup plus vulnérable au moment de l'arrivée de l'enfant, et donc plus sujet à développer une dépression.
Docteur TBK, on va arriver au bout de cet entretien. Est-ce qu'on peut quand même dire une chose positive, c'est qu'on en guérit ?
Oui, absolument. Et je crois que c'est un message très important, c'est que ça se prend en charge, ça se prend bien en charge. Donc, quand vous n'allez pas bien, consultez, faites-vous orienter pour avoir accès à des soins qui sont les plus adaptés possibles.
Moi, j'ai mis un message sur Instagram pour suggérer d'avoir des témoignages. J'en ai reçu énormément. D'ailleurs, je vous l'ai dit, vous m'avez dit, ça m'étonne pas. Énormément. Et beaucoup me disaient, je suis au fond du trou. Alors, beaucoup me disaient, je veux pas témoigner parce qu'ils n'ont pas forcément envie de le raconter. Je suis au fond du trou, j'ai l'impression que j'en sortirai jamais, etc. Vous vous dites à toutes ces personnes, si, il y a forcément un moment où on remonte.
Il y a forcément un moment où on remonte, et ce moment il est d'autant plus court qu'on se fait prendre en charge le plus précocement possible.
Merci beaucoup docteur Sarah TBK d'avoir accepté de jouer le jeu du podcast.
Merci beaucoup de cette interview.
Et je rappelle que vous êtes psychiatre, chercheuse spécialisée en psychiatrie périnatale à l'hôpital Louis-Moury à Colombes. À bientôt. Merci beaucoup à Alexandre Ferreira qui a réalisé comme chaque fois cet épisode du podcast des maternelles. Merci beaucoup aux équipes de 2P2L et de France Télévisions. Ciao tout le monde.